valeur HI 203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. 11e cassette, deuxième phase présentée par Monsieur Neveu.
Le Saint-Empire. Pouvoir impérial, principauté et république urbaine en Germanie et en Italie. Le Saint-Empire représente un modèle radicalement différent de celui qui prévaut dans les royaumes occidentaux. Il n'y a pas de royauté héréditaire, il y a maintien d'un système électif, il n'y a pas de domaine royal important, il y a prétention maintenue à l'Empire universel. Mais cette royauté est de plus en plus germanique. Cependant, un certain pouvoir est maintenu sur l'Italie du Nord. Quelles sont les conséquences de cet état de fait? Il n'y a pas de pouvoir central fort. Il y a lutte pour le pouvoir et même anarchie. Il y a développement de principautés autonomes. Et enfin, développement de villes commerçantes, dotées d'institutions propres. Ce sont véritablement des républiques urbaines, surtout en Italie. Au début du XIVe siècle, le Saint-Empire sort d'une longue crise, le Grand Interrègne. C'est alors que se rétablit le pouvoir impérial. Mais les forces centrifuges sont toujours aussi puissantes. Nous subdiviserons ce cours en deux parties. Première partie, le pouvoir impérial en Germanie après le Grand Interrègne. Deuxième partie, les villes italiennes et l'Empire. Première partie donc, le pouvoir impérial en Germanie après le Grand Interrègne. Issu, nous le savons, de l'Empire carolingien, puis de l'Empire d'Othon le Grand, créé en 962, le Saint-Empire est constitué de deux royaumes, royaume de Germanie, royaume d'Italie, qui ne comprend en fait que l'Italie du Nord, la Lombardie. Pour ces deux royaumes, un seul roi. Il faut cependant y ajouter deux royaumes secondaires, le royaume de Bourgogne, issu lui aussi des partages carolingiens. Il n'a en fait plus d'existence autonome dans l'Empire et véritablement un destin séparé à cette époque, notamment avec le comté de Provence. Deuxième royaume secondaire, le royaume de Bohême, et qui est intégré à l'Empire, quoique non germanique. L'Empire est électif. Mais au cours du XIIIe siècle, l'habitude s'est prise de limiter le nombre d'électeurs à 7. Nous avons donc 3 électeurs ecclésiastiques, l'archevêque de Mayence, primat de Germanie, chargé de sacrer les nouveaux rois, l'archevêque de Trèves et celui de Cologne. Ce sont les deux assesseurs de l'archevêque de Mayence au sacre. Ensuite, 4 électeurs laïcs, qui sont les grands officiers héréditaires de la couronne. Le comte palatin du Rhin, qui est sénéchal, le duc de Saxe, qui est maréchal, le margrave de Brandebourg, qui est chambrier, et le roi de Bohême, qui est échanson. Cependant, le roi élu prend le titre de roi des Romains. Pour être empereur, il doit être couronné à Rome par le pape. Le système établi à cette époque va se maintenir, au moins formellement, pendant tout le Moyen-Âge. Et même jusqu'au début du XIXe siècle. Dans l'immédiat, au milieu du XIIIe siècle, ce système va entraîner la compétition entre les grandes familles princières et plonger l'Empire dans l'anarchie. À vrai dire, cette situation n'est pas nouvelle. Rappelons au XIIe siècle la lutte entre les Welfs et les Hohenstaufen, Guelfes et Gibelins pour les Italiens. En 1250, à la mort de Frédéric II, s'ouvre le grand interrègne qui durera jusqu'en 1273. Les Staufen vont disparaître assez vite. Les fils de Frédéric II comprennent Conrad IV, mort en 1254, puis son fils Conradin, mort en 1268. C'est la branche légitime. Et pour la branche bâtarde, Manfred, mort en 1266. Au cours de l'interrègne, Deux candidats principaux se présentent, mais les électeurs ne pourront les départager. Notons qu'aucun d'eux n'est allemand. Ce sont Richard de Cornouailles, frère du roi d'Angleterre Henri III, et Alphonse X, roi de Castille. Il est le fils de Béatrice de Souabe, sœur de Frédéric II, d'où ses droits. Mais en réalité, il ne s'intéresse qu'à l'Italie et à la dignité impériale, de même que Richard de Cornouailles d'ailleurs. C'est le pape Grégoire X, 1271-1276, qui va être à l'origine du rétablissement du Saint-Empire. Il songe à la défense de la Terre Sainte, et notamment de Saint-Jean d'Acre, gravement menacé à cette époque par le sultan mamelouk Baybars. Il faut un empereur immédiatement pour commander une croisade. Or, le prince le plus puissant à cette époque est Ottokar II, roi de Bohême. Les Tchèques disent Ottakar. Il appartient à la dynastie des Přemyslides. En 1247, il s'empare de la Moravie, de l'Autriche, de la Styrie et en 1269 de la Carinthie et de la Carniole. C'est le candidat du pape, mais il est écarté par les princes électeurs qui ne veulent pas d'un empereur trop puissant. Ils choisissent donc Rodolphe de Habsbourg, landgrave d'Alsace, le 1er octobre 1273. Il est couronné roi des Romains à Aix-la-Chapelle. Cependant, il va décevoir le pape. Il n'ira jamais vers la Terre Sainte et n'ira même pas à Rome pour se faire couronner empereur. Il est trop préoccupé par les affaires allemandes. En effet, Rodolphe veut récupérer les terres indûment occupées par Ottokar II. En 1274, une diète assemblée des grands, on en reparlera tout à l'heure, tenue à Nuremberg, décide de lui demander raison. En 1276, Rodolphe passe à l'attaque. En 1266, c'est la bataille de Dürnkraut, autrement dit du Marchfeld, au cours de laquelle Ottokar est vaincu et tué. C'est donc un succès éclatant. C'est le rétablissement du pouvoir royal en Germanie. C'est le point de départ de la puissance des Habsbourg. Rodolphe n'ose pas s'emparer directement des terres récupérées. Mais en 1282, il place ses deux fils à la tête de l'Autriche, de la Styrie et de la Carinthie. Cependant, Rodolphe n'a pas pour autant fondé une dynastie. Et à sa mort en 1291, la royauté va échapper à sa famille. Trois grandes familles princières se disputent le titre royal et impérial au début du XIVe siècle. D'une part, les Habsbourg, qui possèdent l'Alsace, le Bade, la Suisse et l'Autriche. Les Wittelsbach, qui possèdent le duché de Bavière et le Palatinat rhénan. Les Luxembourg, qui possèdent le duché du même nom et bientôt le royaume de Bohême. Vous pouvez le voir sur le tableau généalogique des grandes familles impériales à cette époque. Au XIVe siècle, après le grand interrègne, la puissance impériale se mesure donc à la puissance territoriale du roi des Romains élu, car les terres d'empire sont réduites à peu de choses. L'empereur doit donc compter avec les grands princes territoriaux dont le pouvoir s'est accru dans la mesure même où le pouvoir impérial s'affaiblissait. Il s'agit bien sûr des sept princes électeurs. Leur nouveau pouvoir sera sanctionné d'ailleurs un petit peu plus tard par la bulle d'or de 1356. Ils obtiendront l'indivisibilité de leur domaine. Le crime de lèse-majesté sera étendu à leur personne. Et ils obtiendront également ce qu'on appelle le privilège de non appellando et non evocando, c'est-à-dire interdiction de recourir à un tribunal étranger et garantie contre les citations par un tribunal étranger. Cependant, ces privilèges ne concernaient que les électeurs. Or, il y avait d'autres puissances territoriales, notamment la Bavière et l'Autriche. Le duc d'Autriche, Rodolphe IV de Habsbourg, 1358-1365, tenta d'obtenir les mêmes privilèges par un faux. Charles IV, On refusa la confirmation, mais Frédéric III de Habsbourg confirma ce même faux en 1453. L'Empire est donc de plus en plus une mosaïque d'États souverains. Cependant, le pouvoir impérial n'est pas aussi réduit qu'on l'a dit parfois. Signalons notamment la principale institution de l'Empire, la Diète d'Empire, Generalis Conventus, qu'on appellera Reichstag à partir du XVe siècle. À la fin du Moyen-Âge, la Diète d'Empire regroupe l'État des princes, l'État des seigneurs et les envoyés des cités et des villes d'Empire. L'empereur a donc du mal à s'imposer dans le royaume de Germanie au début du XIVe siècle. Il en est de même a fortiori sur l'autre versant de l'Empire, dans le royaume d'Italie, lui aussi subdivisé en principautés et en villes, alliés de l'Empire ou bien hostiles à lui. J'en arrive donc à ma deuxième partie, les villes italiennes et l'Empire. L'Italie du début XIVe se subdivise en trois éléments distincts. Le royaume d'Italie au nord, mais sans la République de Venise. Les États pontificaux au centre. Le royaume de Sicile au sud. Naples et Sicile sont distincts après 1282. Nous insisterons sur les villes qui sont particulièrement dynamiques à cette époque sur le plan économique. Elles sont la principale réalité italienne, y compris sur le plan politique. Car on peut dire que l'Italie, au-delà des divisions précitées, est constituée de nombreuses républiques urbaines plus ou moins indépendantes. Nous dépasserons dans cette étude le cadre de l'Empire au sens étroit du terme. Mais à part Venise, les villes les plus actives et les plus prospères sont situées dans le royaume d'Italie. Quelles sont les circonstances politiques à la fin du XIIIe siècle? Trois événements vont marquer l'Italie à cette époque et réduire considérablement la dépendance des villes à l'égard des puissances extérieures. D'abord, le Grand Interrègne. Il n'y aura aucune intervention allemande en Italie de 1250 à 1273. Ensuite, les fèbres siciliennes en 1282, c'est-à-dire le massacre des Français de Sicile. Par conséquent, la perte de la Sicile par les Angevins et l'abaissement de cette monarchie angevine. Troisièmement, également l'abaissement de la papauté. Rappelons en 1294 l'élection et l'abdication immédiate de Célestin V et le règne de Boniface VIII, son successeur, 1294-1303. En un sens, c'est l'apogée de la puissance pontificale. Par exemple, en 1300, c'est le premier jubilé, célébré triomphalement. Mais bientôt, c'est la chute lors de la lutte contre Philippe le Bel. En 1303, l'attentat d'Anagni. Son successeur, c'est Benoît XI, qui s'installe à Pérouse et qui n'ose pas aller à Rome, aux mains des Colonna. Finit d'ailleurs probablement assassiné. Son successeur en 1305 et jusqu'en 1314, c'est donc Clément V, Bertrand de Gaulle, archevêque de Bordeaux, originaire de Gascogne. Lui s'installe à Avignon en 1309. Il n'ira jamais en Italie. C'est le début de la papauté d'Avignon. À partir de cette date et pendant tout le XIVe siècle, ou presque, il n'y a plus de pape en Italie. Ces événements conjugués vont donner aux villes italiennes une autonomie qu'elles n'avaient jamais connue dans le passé. Voyons quelles sont les grandes villes et les différents types de grandes villes. D'abord, les villes maritimes. Les deux principales sont Gênes et Venise, qui est hors de l'Empire. Venise a environ 90 000 habitants en 1338. Quant à Gênes, elle est l'adversaire de Venise. L'épisode le plus connu de leur affrontement, c'est en 1261 la reprise de Constantinople par Michel VIII, paléologue, avec l'aide des Génois. Tous les Vénitiens sont chassés de Constantinople. Mais Gênes est également ennemi de Pise. Ces deux villes sont traditionnellement en guerre. Il y a de nombreuses batailles navales. En 1284, c'est la bataille de la Meloria, d'une défaite pisane retentissante. Pise est affaiblie à ce moment-là et elle devient une puissance maritime de second rang, derrière Gênes. Au contraire, Gênes progresse en acquérant notamment la Sardaigne, qu'elle conservera jusqu'en 1326, et la Corse, qu'elle conservera jusqu'au XVIIIe siècle. Il ne reste dès lors que Gênes et Venise, qui sont de vieilles ennemies, nous le savons. D'autre part, les villes de l'intérieur, dans la plaine du Pô, Milan, qui comprend environ 100 000 habitants à la fin du XIIIe siècle, puis Padoue, Vérone, Pavie, qui compte environ 30 000 habitants, Ferrare et Bologne, qui compte 40 000 habitants. Bologne est la capitale intellectuelle de l'Italie. Ces deux dernières villes sont situées dans l'État pontifical. Ensuite, les villes de Toscane, situées dans le Royaume d'Italie. Florence, la plus grande, qui approche les 100 000 habitants également, vers 1300. Puis Lucques et Sienne, qui ont environ 20 000 habitants. Sienne est frappée par la faillite des Bonsignori, principale compagnie, en 1298. Ensuite, Rome, qui aurait eu 35 000 habitants environ au début du XIIIe siècle. En tout cas, elle est beaucoup moins peuplée et active que les autres villes citées. Elle n'est qu'une petite ville administrative. Dans le royaume de Naples et dans la Sicile, comptons Naples, environ 100 000 habitants. C'est une grande ville administrative, mais la vie économique y est aux mains d'étrangers à partir de 1266. En Sicile, Palerme, environ 45 000 habitants, qui est redevenue capitale à partir de 1282. Il faut distinguer plusieurs catégories de villes. Celles qui sont à la tête d'un État et qui sont plus ou moins étroitement contrôlées par le souverain. Naples, Palerme, Turin, à un moindre degré, Rome et Milan. Celles qui se sont développées par leurs seules activités économiques. Venise, Gênes, Florence. Et qui tentent de s'imposer d'abord à leur région, leur contado, puis aux villes voisines, moins puissantes, ou bien qui tentent de s'allier avec elles. Dans tous les cas, ces villes italiennes connaissent une vigueur économique remarquable qui les place sur ce plan en tête de toutes les villes occidentales. Voyons justement ce qui concerne l'activité économique. En premier lieu, il faut citer le commerce à longue distance, puis la banque et l'industrie. Dans les ports existent de petites sociétés. La Comanda, par laquelle l'un des associés apporte tout le capital, ou bien la Societas Maris, dans laquelle l'homme d'affaires qui se déplace apporte le tiers du capital. En cas de perte dans les deux types de sociétés, la perte est répartie de cette façon, 3/4 pour le capital, 1/4 pour le travail. Les grands marchands, par exemple génois ou vénitiens, sont associés à de multiples petites sociétés. Dans les villes de l'intérieur, on trouve des compagnies en nom collectif. Le risque est donc moindre. L'homme d'affaires est l'associé d'une seule compagnie où il a placé tout son bien. On trouve de telles compagnies dans les grandes villes. À Florence, les Bardi, les Bonaccorsi, les Peruzzi, les Acciaiuoli. À Sienne, les Bonsignori, déjà cités. À Lucques, les Ricciardi, etc. Et même dans de petites villes, on trouve de telles compagnies, par exemple à San Gimignano, qui compte environ 13 000 habitants en 1300. Ces sociétés et compagnies ont des comptoirs, appelés fondaki, dans toutes les grandes villes commerçantes du monde connu. Dans les ports italiens, à Rome, en Méditerranée, par exemple à Tunis, Alexandrie, Chypre, en Morée, à Beyrouth, à Acre, à Constantinople. En mer Noire, à Kiev, en Occident, en France, par exemple, foire de Champagne ou à Paris. Toutes les villes italiennes sont représentées. Pensez à Biche et Mouche. En Flandre également, notamment à Bruges, qui est la charnière de plusieurs axes commerciaux. On achète du drap. Citons également Londres, où on achète de la laine. En Angleterre, les principaux bailleurs du fonds du roi sont les Ricciardi de Lucques, puis les Frescobaldi de Florence, les Bardi, les Peruzzi également de Florence. Les Italiens établissent une route maritime directe vers les pays du Nord au cours du XIIIe siècle. En 1232, Le premier navire génois est signalé à La Rochelle. En 1277, même chose à Bruges. En 1298, une ligne régulière est établie entre Gênes, la Flandre et l'Angleterre. Cette route commerciale nouvelle sera l'une des causes du déclin des foires de Champagne. Mais le dynamisme des marchands italiens ne se limite pas à l'Occident. Ces marchands vont explorer les limites du monde connu. On les voit en Afrique occidentale. Ils suivent la côte jusqu'au cap Bras d'Or. Au sud, les vents empêchent de revenir. En Orient, il y a des espoirs suscités par l'avance des Mongols. On tente d'entrer en contact avec eux. Dès le milieu du XIIIe siècle, des voyageurs génois sont connus en Extrême-Orient, mais connus seulement par allusion. En revanche, le voyage du Vénitien Marco Polo est très bien connu. Le premier voyage est d'ailleurs celui de Matteo et de Niccolo, son père et son oncle, en 1253 et 1269. Le voyage auquel a participé Marco Polo commence en 1271. En 1275, ils sont à Pékin, nouvelle capitale de Kubilai, empereur mongol. Marco devient d'ailleurs conseiller et ambassadeur au Yunnan. En 1295, les Polos reviennent, mais ils sont faits curieusement prisonniers par les Génois. Et en 1298, Marco Polo dicte en prison son livre des merveilles. C'est la première épopée d'un homme d'affaires italien. Marco Polo mourra en 1324. L'Italie du début du XIVe siècle est donc caractérisée par un formidable dynamisme économique qui porte certains de ses ressortissants jusqu'aux extrémités du monde connu. Pourtant, ce dynamisme ne va déboucher sur aucune construction politique unifiée, bien au contraire. L'essor économique va s'accompagner du morcellement politique le plus extrême. Chaque ville importante va adopter son propre système politique et va chercher à étendre son influence, d'abord sur son Interland, son Contado, puis sur les villes voisines moins puissantes. Mais cet impérialisme trouve vite ses limites, du fait de l'extrême compartimentage géographique de l'Italie et du fait des rivalités qui opposent depuis des siècles les grandes villes commerçantes. Par exemple, Gênes contre Venise et contre Pise. On peut distinguer plusieurs types d'organisations politiques. D'abord, la seigneurie urbaine, dont le type est Milan. C'est un régime princier qui se rapproche le plus de la monarchie. Les seigneurs sont alternativement des Visconti et des Toriani. Mais à partir de 1311, la seigneurie revient définitivement au Visconti. D'autres villes connaissent le même régime. Vérone, avec la famille della Scala, et Ferrare, avec la famille d'Est. Gênes constitue un cas à part. L'instabilité politique est la règle. On hésite entre un système de gouvernement mi-noble, mi-populaire, et une seigneurie. Mais dans les deux cas, ce sont les hommes d'affaires qui ont la haute main sur la direction de la cité. Troisième type, la république aristocratique. Le type est Venise. La commune de Venise se ferme de plus en plus en faveur de l'aristocratie d'affaires. Comme institution, nous avons le grand conseil réservé à l'aristocratie des familles de grands hommes d'affaires, et le petit conseil de 6 membres qui assure la seigneurie du duché et élise parmi eux le doge élu à vie. Autre type, la république démocratique. Le type en est Florence. Florence a d'ailleurs connu successivement plusieurs régimes politiques qui finissent par se superposer. Au XIIe siècle, c'est la commune. Au XIIIe siècle, la podestati. À la tête de la commune, on trouve un podestat étranger élu pour un an. Mais au milieu du XIIIe siècle, Florence est déchirée par des luttes de partis. Sous Frédéric II, lutte entre les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, partisans de l'empereur. Enfin, à la fin du XIIIe siècle, 1292-93, ce sont les ordonnances de justice et l'avènement d'un régime démocratique. La principale mesure, c'est l'élimination des magnats, qui sont réduits au rang de citoyens ordinaires, et même frappés d'incapacité politique. Cependant, il y a quelques atténuations. Les nobles peuvent s'inscrire dans un art manuel. Par exemple, le célèbre Dante était inscrit dans l'art des épiciers. C'est assez curieux. Voyons donc les nouvelles institutions à partir de 1293. La seigneurie est exercée par le gonfalonier de justice et par les prieurs, 6 puis 8, élus pour 2 mois dans les arts majeurs. Il s'agit des 6 arts majeurs du grand commerce, détachés progressivement au cours du XIIIe de l'arte des mercanti, de l'art des marchands. Nous avons en tête l'arte di Kalimala, puis l'art du change, l'arte di Por Santa Maria, concernant le commerce du drap, notamment de la soie, l'art de la laine, l'art des merciers, épiciers et médecins, l'art des pelletiers et fourreurs de verre. Chaque art est organisé. Il y a 4 consuls à la tête d'un art, élus tous les 6 mois par une assemblée. C'est au sein des arts que prennent place les compagnies dont nous avons déjà parlé. Mais l'ancienne commune est toujours en place avec le podestat étranger, le conseil large, le peuple dirigé par le capitaine du peuple qui est également un étranger. Ce régime n'est pas vraiment démocratique au sens moderne. Il y a l'opposition entre le popolo grasso, dominé par les arts majeurs, et le popolo minuto, c'est-à-dire le petit peuple. Il n'y a pas non plus de véritable élection, mais plutôt une cooptation associée à un tirage au sort. En fait, la prépondérance est assurée, comme dans la plupart des villes italiennes, par la bourgeoisie d'affaires. Un seul parti dominant, c'est à cette époque le parti Guelf. Mais au sein de ce parti, il y a 2 factions qui se déchirent, les blancs et les noirs. Par exemple, Dante était blanc et à ce titre, il est banni en 1302 par les noirs. Banni à vie et il mourra en exil. On aboutira finalement en 1378 à une grave crise révolutionnaire. La révolte des Ciompi, c'est-à-dire des prolétaires, qui voudront s'organiser en art. Je conclus. Florence est un exemple tout à fait caractéristique de la situation italienne. Essor économique, lutte politique, développement dans un cadre étroit, mais aussi floraison artistique. C'est l'époque où l'on construit de grands édifices gothiques. C'est l'époque de grands peintres comme Cimabue et puis bientôt Giotto. Et floraison littéraire avec Dante, bien entendu, et la Divine Comédie rédigée au début du XIVe siècle. Finalement, l'alliance forcée de la Germanie et d'une partie de l'Italie dans le Saint-Empire n'est peut-être pas aussi artificielle qu'on pourrait le croire. Ce modèle se traduit par une faiblesse du pouvoir central dans les 2 cas, par une certaine anarchie politique qui favorise les principautés et les villes. Mais les populations urbaines manifestent un formidable dynamisme économique qui place les grandes villes italiennes, comme les villes allemandes, notamment celles de la Hanse, en tête de l'Occident chrétien.